croire spirituellement. Et le point important, c'est ensuite de bien les éduquer, ces enfants, de bien s'en occuper. Et ça, c'est tout le travail de formation qui est en rapport avec la reproduction. Parce qu'on ne peut pas se contenter seulement d'être un géniteur, ce n'est pas possible. Il faut ensuite qu'il y ait ce travail de... C'est une grande clé, la formation de disciples, la notion de père. C'est une clé qui doit se développer. On s'est trop souvent arrêté à l'évangélisation. Vous voyez ? L'évangélisation a été redécouverte, je dirais, individuellement au XVIe siècle avec la Réforme, mais elle s'est développée en masse mondialement au XIXe siècle, avec de grands évangélistes qui sont allés un peu partout, hein, Moody, Spurgeon, Finney, etc. Hein. Et c'est bien, mais on s'est arrêté là. La formation de disciples, c'est devenu une mode dans les années 70 avec Jeunesse en Mission. Le Seigneur leur a fait retrouver ça, gloire à Dieu, c'est bien. Mais oui, la mode est passée et on ne peut pas vivre de mode. Hein, on n'est pas, ça c'est le monde qui vit de la mode. Nous non, on ne vit pas de la mode, on vit de la Bible qui ne change pas. Il n'y a pas de mode. C'est la Bible, elle ne change pas, elle est parfaite, elle a besoin d'être pleinement vécue. Former des disciples. Comment voulez-vous ? C'est la quatrième clé. Bien sûr, chacun est formé. Et c'est en rapport avec...
La vie personnelle.
Oui. Chacun est formé personnellement, en fonction de son appel. En fonction... Il y a bien sûr un tronc commun, comme à l'école. Tout le monde va en sixième, en général. Hein. Tout le monde fait l'école primaire, alors on va être plus simple. Mais après, en fonction du métier, eh bien, ça va être spécifique. Ça va être différent pour chacun. Eh bien, dans l'Église, il doit y avoir cela. Si l'Église ne le fait pas, ce n'est pas le monde qui va le faire. Ce ne sont pas les livres chrétiens qui vont aider. C'est pour ça que ça nous amène à toucher un autre point, l'école biblique dans l'Église. L'école biblique doit se faire au sein de l'Assemblée locale. Et là, on va vraiment faire un travail... du début à la fin. Évangélisation, les gens viennent au Seigneur, le Seigneur les sauve, c'est le commencement. Il nous confie des âmes, on va fonctionner dans l'Église, il va y avoir des pères qui vont faire ce travail, qui vont pouvoir s'occuper de ces âmes. Et puis, eh bien, ensuite, ils vont être formés avec la parole, ils vont être formés spirituellement. Vous verrez, demain, on parlera un peu plus de ça. Hein. Alors, je vous ai cité... quelques versets, je vais quand même les lire. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Faites, c'est former, ici, en grec. Hein. « Former des nations dans les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. » Alors c'est marqué dans nos Bibles, « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est pas juste. Hein. C'est « Au nom du Père et du Fils » et du Saint-Esprit. C'est important parce que ceux qui disent que le Père et le Fils sont la même personne, eh bien, on voit que c'est pas juste. Là, il y a un « et » hein, qui est là. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec nous si on fait ça. Si on ne fait pas ça, il n'est pas avec nous. Hein. Il faut faire ça. Et à ça, eh bien, faut ajouter, bien sûr... on aurait dû commencer par là, les versets de Marc 16, 15 à 20. Allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle, etc. Et Dieu va accompagner sa parole par des miracles, par des signes et des miracles qui vont conduire les gens à connaître le Seigneur. 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. J'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Alors, bien sûr, on peut encore dire beaucoup d'autres choses. Hein. Je ne veux pas... comment dire, j'ai pas le temps de tout vous développer maintenant, mais vous avez compris que ce qu'il faudrait ajouter là-dedans, c'est qu'il y a aussi le travail en équipe. C'est pas tout seul que ça se fait, ça. On ne forme pas tout seul. c'est le Père et le Fils. La notion de Père et de Fils. Hein. Donc ça va ensemble. Et là, on le voit bien dans ces versets. J'ai planté, c'est Paul qui parle, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Quand on réalise l'importance de ces paroles, on comprend qu'on peut plus prendre on peut pas prendre la gloire de Dieu. Vous voyez ? Nous, qu'est-ce qu'on est ? C'est Dieu qui fait croître. L'un plante, l'autre arrose. Mais l'image, elle est très simple. Regardez l'image d'un cultivateur. Il va planter une semence, mais ce n'est pas lui qui a créé la semence. La semence lui a été donnée, ou il l'a achetée. N'est-ce pas ? Mais c'est une semence qu'il va planter. Ça, c'est la part de l'homme. Bien sûr, il faut faire ce travail. Il faut ouvrir sa bouche. Il faut parler du Seigneur. Il faut ensuite expliquer les principes bibliques pour la formation de disciples. Ça, c'est notre part. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est la fameuse parabole de Marc 4. Hein. On ne sait pas comment la semence croît, mais c'est Dieu qui le fait. Ça, c'est merveilleux. Donc, une église qui ne se reproduit pas, c'est une église qui a un problème. Un gros problème. Je me rappelle d'une assemblée comme ça. Le pasteur me dit, ben voilà, on s'est retrouvés entre nous depuis des années, puis on a fait un travail de formation de disciples, et on a continué à le faire. Et maintenant, eh bien, on s'entend bien, et on ne veut pas de nouveau. Oh oui. Oui, d'un côté, il y a ceux qui font l'évangélisation, puis ça ne va pas plus loin, il n'y a pas de formation de disciples. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui ont fait de la formation de disciples, puis ils ne veulent pas faire d'évangélisation. C'est une catastrophe. Et finalement, effectivement, cette église a eu de gros problèmes par la suite. Alléluia. La cinquième clé, Genèse 1, 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Alors, le cinquième. Ah, c'est bien, mais ça se suit. Hein. J'ai dit 12 clés. J'ai dit 12 clés, oui. Bon, il n'y a que 7 jours. Hein, je me rappelle, ça me revient maintenant. Ce n'est pas en rapport seulement avec les 7 jours de la semaine. Non, ça va plus loin. Hein. Alors là, qu'est-ce que c'est là ? Bien sûr que c'est en rapport avec le plan de Dieu. Pourquoi ? Parce que les luminaires, là je vous demande de vous rappeler, hein, les étoiles nous montrent tout le plan de Dieu. N'est-ce pas ? Vous vous rappelez le séminaire sur les étoiles ? Les luminaires, ils servent à présider au jour et à la nuit. Les luminaires, eh bien, leur but, regardez le plan de Dieu, c'est de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Vous avez toute l'histoire des hommes dans les étoiles. Et s'il n'y a pas la lumière, ben, il y a les ténèbres. Et c'est vrai que il faut surtout faire très attention dans l'Église de ne pas enlever la lumière, de ne pas diminuer la lumière. Je veux dire, on a des lampes, hein, on peut appuyer, hein, on peut augmenter ou diminuer. Non, il faut que la lumière soit totale. Jésus est la lumière du monde, c'est une image, c'est le plan de Dieu, bien sûr. Et je dirais que dans le plan de Dieu, eh bien, il faut une révélation claire, il faut voir clairement. Il ne faut pas qu'on voit les choses d'une manière trouble. Ben, le mieux, c'est de prendre des exemples pour bien comprendre ce que je vous dis là. Vous allez dans une librairie évangélique. Vous voulez, vous faites la formation de disciples par rapport à ce qu'on disait juste avant. Et vous dites, tiens, j'aurais besoin de tels livres pour mieux comprendre, pour mieux former. Et puis vous arrivez, on vous dit, voilà, c'est dans ce rayon-là, vous y allez. Puis vous en avez un, il dit une chose, il donne une lumière, puis l'autre donne une autre lumière. Laquelle vous allez choisir? Et c'est pas clair. Et pourquoi c'est pas clair? C'est, ça veut pas dire que l'un a tort, l'autre a raison. Chacun a vu une lumière. Je me rappelle, par exemple, un frère qui s'appelait Merlin Carothers. C'était la mode, à un moment donné, la mode, c'était « Tout se règle par la louange. Vous louez Dieu, tout va se régler. » Vous voyez, c'était la mode. Mais non, c'est faux. C'est absolument faux. C'est une lumière. Et c'est vrai que le fait de prendre du temps dans la louange, dans l'adoration, ça nous rapproche de Dieu, ça nous fait grandir avec Dieu. Et il ne faut pas perdre ça. Mais ce n'est pas suffisant. La louange est une pièce de puzzle dans le plan de Dieu. Vous avez d'autres pièces. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est d'être au-dessus du puzzle et puis de bien voir comment toutes les pièces se mettent en place dedans et comment tout est en ordre. Et là, il faut avoir, je dirais, je ne vais pas dire toute la lumière parce que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Il y a encore des choses qu'on doit apprendre. Il y a encore des choses où on doit grandir, où on doit avoir plus de lumière. Mais je dirais qu'on doit aujourd'hui, au travers de la parole qui a été, qu'on étudie personnellement, qu'on lit, qu'on relit, on doit avoir une lumière globale et bien comprendre comment tout s'imbrique, comment toutes les choses se mettent ensemble les unes avec les autres. Et quand on a cette lumière claire, c'est tellement plus facile de former les disciples. C'est tellement plus facile d'avancer d'une manière correcte, n'oublions pas notre sujet, de nous préparer à la venue du Seigneur. Je vais vous prendre quelques exemples. Beaucoup de chrétiens sont perturbés quand ils souffrent. Ils ne connaissent pas le chemin de la souffrance. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le chemin du repos. C'est ce qui est écrit dans Romains 3. Ils ne connaissent pas le chemin du repos. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est qu'un vainqueur. Il y a des règles pour devenir un fils, un héritier. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris le principe du corps, de l'âme et de l'esprit. Ah, bien sûr, si on ne comprend pas ce principe, on ne peut pas comprendre le salut éternel. On ne peut pas comprendre la possession démoniaque. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se posent des questions. Est-ce que je peux divorcer? Est-ce que je ne peux pas divorcer? Mais c'est des questions qu'on ne se pose même plus quand on a la lumière, clairement. Et on pourrait continuer encore à prendre beaucoup d'exemples. C'est un test que j'ai souvent fait dans les églises. Quand j'ai fini un travail, eh bien, à la dernière réunion, souvent je dis, maintenant je vous laisse un temps pour poser des questions. Et souvent, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Quand ça revient trop, j'écris un livre. Hein. Mais ce n'est pas normal. Combien de chrétiens se disent, moi j'aimerais comprendre un peu plus la volonté de Dieu. Comment faire pour connaître la volonté de Dieu? Mais la Bible est claire. La Bible est très claire. Comment voulez-vous que Dieu vous parle et vous dise des choses qui sont déjà clairement écrites dans sa parole? Il faut faire ce qui est écrit. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions. C'est le livre des Proverbes nous dit bien, c'est un livre qui est très intéressant pour connaître la volonté de Dieu, et le premier chapitre nous donne déjà le but du livre, pour donner des leçons de bon sens. Il n'y a pas que la révélation, il y a le bon sens. Dieu nous a donné un bon sens quand même. Si tu rencontres un serpent sur ton chemin, tu ne vas pas faire exprès de marcher sur sa queue. Ça, c'est le bon sens. Sinon, tu te fais mordre. Alors, vous voyez, les luminaires, ils ont été donnés pour donner, bien sûr, la lumière. Qui dit lumière, dit révélation. dit que on va avoir clairement la révélation du plan de Dieu. Et c'est souvent quelque chose qui manque, ça aussi. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pour exister, les dénominations, c'est Paul qui le dit aux Corinthiens, hein, il dit « il faut qu'il y ait des sectes au milieu de vous ». Alors le mot « secte », il n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Hein. À partir du moment où il y avait différentes factions chrétiennes, je vais dire dénominations chrétiennes, c'était des sectes. Pour qu'une secte existe, il faut qu'elle ait une différence avec le reste du corps de Christ. Sinon, elle n'existe pas. Elle est semblable. Elle ne peut pas se séparer. Et le problème, eh bien voilà, le problème, il vient des dénominations. Telle dénomination va insister sur le baptême dans le Saint-Esprit. Telle dénomination va insister sur le baptême dans l'eau. Telle dénomination va insister sur la foi, etc., etc. Et on se met à part en se mettant dans ce genre de dénomination, même si on dit « Oh, mais moi, je reste libre de cela et je veux être ouvert à tout ce que dit la Bible », mais tu es quand même dedans. Et tu es influencé à force. C'est obligé. Mars, Jupiter, Vénus, la Lune sont influencés par le système solaire. Ils sont obligés de tourner autour. Ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a une attraction. Et dire « je suis dedans, mais en fait, je ne suis pas d'accord avec ces principes », c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et pour exister, les dénominations ont besoin d'avoir leur particularité. Et qui dit particularité dit seulement une part de la vérité, seulement une part de la lumière. Si vous voulez bien le comprendre, vous lisez l'histoire du prophète Balaam. Balak l'amène exprès à des endroits différents pour qu'il voit juste une partie d'Israël. Vous voyez, Balaam est très intéressant à étudier, par exemple, pour le ministère de prophète. Parce que là, on voit les dangers du prophète, bien sûr, mais justement, un des dangers, c'est de voir qu'une partie et de croire qu'on a tout vu. Et de croire qu'on a tout. Combien de... Je dis prophète, je vais être plus large, je vais parler des gens qui ont un don de révélation. Ils sont persuadés que leur révélation, c'est ça. Ils ont tout. Alors, eh bien, tout d'un coup, ils disent « Ah non, moi, je ne suis pas d'accord avec le pasteur, je ne suis pas d'accord avec les anciens, etc. » parce qu'ils ne suivent pas la révélation que j'ai eue. Ils sont persuadés que leur révélation est complète, alors qu'elle doit se mettre dans l'ensemble. Et Dieu voyait l'ensemble d'Israël. Et Dieu donnait une parole révélée à Balaam qui ne correspondait pas à ce que Balaam aurait voulu dire lui-même et qui ne correspondait pas non plus à ce que Balak attendait. Voilà, vous comprenez ? Donc, il faut avoir la lumière globale. Il faut qu'on ait la lumière le plus claire possible. Et on a besoin, encore une fois, c'est le point précédent, travail en équipe, on a besoin les uns des autres. On a besoin de dépendre des autres parce qu'on ne peut pas avoir la lumière à nous tout seuls. C'est pas possible. On arrive à la sixième clé. Est-ce que je dois aller plus vite? Est-ce que vous voulez quelques minutes de pause? Bien, alors nous arrivons à la sixième clé. La sixième clé, Genèse 1, 20 à 25. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez les mers, les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le cinquième jour. » Ah oui, je ne suis pas les jours, pas forcément, hein, parce que ça continue. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors là, eh bien, c'est un petit peu différent de la clé dont on a parlé tout à l'heure, la clé de la formation de disciples. Là, c'est la clé de la multiplication, de la croissance, et je dirais de la plénitude. Multiplication, croissance, plénitude. C'est le passage dont je vous parlais tout à l'heure dans Marc 4, versets 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu.
Et c'est le 11e point sur le tableau, Maurice.
Il y a un problème.
Oui, c'est normal. C'est normal.
D'accord.
C'est pas dans... Parce que là, vous voyez, au début, ça commençait... Au début, c'était bien dans l'ordre, parole, monde, soumission, etc. Et là, c'est en rapport avec la gloire de sa vie. La multiplication, c'est la gloire de la vie. Hein. Vous êtes d'accord ? Multiplication. Moi, je prends dans... Alors, comprenez bien, je vous les donne dans l'ordre de Genèse 1 et 2, là.
Voilà.
D'accord ? Mais on peut les voir dans l'ordre des 12 étapes. 7 ou 12 étapes, comme vous voulez. Donc, c'est la 11e, là, bien sûr. C'est pour ça que je vous les ai mises dans l'ordre, là, sur le PowerPoint. Hein. La vie, c'est en rapport avec la multiplication, la croissance et la plénitude. Ça va du début de la vie jusqu'à l'étape d'adulte, et même au-delà, c'est-à-dire la plénitude dans la fonction. Marc 4, versets 26 à 29, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en secret, là. Et c'est la gloire de la vie du Seigneur. Effectivement, ce n'est pas notre vie. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est comment Dieu travaille au travers de la... au travers de la multiplication, c'est pas... comment je vais vous dire ça ? Là, c'est pas de la semence que vous allez chercher à l'extérieur. Vous comprenez la différence ? Ça, c'était là. La semence que vous allez chercher à l'extérieur, c'était la formation de cellules, les disciples, je vois pas. Voilà. L'évangélisation et formation de disciples, ça se fait avec des gens de l'extérieur qui viennent dans l'assemblée. Là, non, c'est les gens de l'assemblée qui grandissent jusqu'à la plénitude, c'est en rapport avec Christ en eux. Hein, c'est la gloire de sa vie. Et ça se fait, vous voyez, selon Marc 4, on ne sait pas comment la semence germe et croît sans qu'il sache comment. C'est ce travail de Dieu. La gloire de Dieu qui se manifeste en nous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je donnais ce témoignage dans l'église il y a pas très longtemps. Je disais que j'étais en voyage. C'était à Vaulx-en-Velin. Tiens, mais c'était à Vaulx-en-Velin, chez toi, Julie. Et une nuit. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tout d'un coup, la présence du Seigneur est venue dans la chambre où j'étais. Et puis, Dieu a répondu à une prière que je faisais depuis plus de 10 ans. Et là, j'ai vu je peux dire concrètement, c'était Vaulx-en-Velin, c'était quand, moi, quel mois ? Avril ? Avril ? On est au mois de juin, ça fait 2 mois. Et concrètement, je peux dire, c'est complètement accompli, c'est complètement réglé. Vous voyez, comme c'est complètement mis en place, je veux dire. C'était une prière depuis plus de 10 ans. Et la gloire du Seigneur, ça c'était pour moi, s'est manifestée à ce moment-là. Et on a besoin dans nos vies de vivre aussi ça, de voir la gloire de Dieu se manifester en nous. C'est pas forcément tout de suite, parfois il faut attendre un peu, mais ça doit se faire. C'est appelé à se faire. Et c'est des choses que le Seigneur nous donne de vivre d'une manière vraiment merveilleuse. Un jour, j'étais au Canada et j'ai vécu cette même expérience, mais pour une autre chose. Pour une autre chose, et ça s'est passé... ça ne s'est pas passé spécialement la nuit, ça s'est passé sur 2 semaines. 2 semaines, j'avais été logé dans une cave, mais une cave aménagée, hein, vous imaginez, pas n'importe... une belle cave, si vous voulez. Et c'était formidable, parce que dans une cave, il y a toujours de la place. Donc j'avais mon lit, j'étais bien installé, il y avait des tapis, je pouvais marcher, prier. Et donc, les gens chez qui j'habitais, ben, au moment du repas, ils ne me voyaient pas monter de la cave. Alors ils se posaient des questions. Et puis à un moment donné, j'ai expliqué, je dis non, je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger, j'ai besoin de rester avec le Seigneur. Vous vous rendez compte, c'était tellement extraordinaire. La présence de Dieu était tellement forte que pendant 2 semaines, je sortais presque pas. Et pendant 2 semaines, j'ai fait pratiquement que pleurer dans cette cave. Je suis parti ensuite. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée là. Et une des filles de la maison, donc une fille, oui, elle était chrétienne, et elle a réalisé qu'il s'était passé quelque chose. Alors elle a fait, c'était pour elle une expérience particulière, elle a dit, elle me l'a dit plus tard, ce que je vais vous dire là, hein, mais elle a dit, oui, là il s'est passé quelque chose, et moi aussi je voudrais bien vivre quelque chose là. Et elle a dit, je vais dormir où il a dormi. Alors elle est venue dormir dans la cave, et elle a aussi vécu quelque chose de très beau à la suite de ce qui s'était passé. Mais ça, c'est personnel, vous comprenez? Mais la vie du Seigneur doit se manifester à certains moments dans nos vies d'une manière assez particulière, je dirais. Bien, la 7e clé, Genèse 1, 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, c'est au pluriel, multipliez, remplissez, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela a été très bon. Ainsi, d'un soir et d'un matin, ce fut le 6e jour. Eh bien là, c'est la clé du règne. C'est la clé du règne. Dominer sur toute la création. Là, c'est une clé souvent qui n'est pas comprise dans l'Église, déjà par les chrétiens, mais aussi dans l'Église. On est appelé à régner. Comment est-ce qu'on peut régner? Comment l'Église peut régner dans le ciel et sur la terre? Alors, c'est vrai que quand on sera auprès du Seigneur, c'est facile à comprendre. Mais maintenant, on est appelé à régner maintenant. Ça ne peut pas être humainement, on est bien d'accord. Vous avez un ensemble de versets qui disent la même chose, qui vous montrent cela. Psaume 2. Le Fils, il est dit qu'il pètera toutes les nations avec une verge de fer. Vous voyez, il va régner. Ça va se faire pendant le millénium. Mais c'est écrit aussi pour le vainqueur dans l'Apocalypse, en rapport avec l'Église de Thyatire. Vous vous rappelez de cela? Et ça, c'est pour le vainqueur. Mais ceux qui ont voulu le faire humainement, regardez la papauté au Moyen-Âge. Il y avait les états pontificaux, le pape a voulu régner, il a voulu dominer sur le monde. Par exemple, à Canossa, en Italie, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui était le royaume le plus puissant d'Europe, a dû venir s'agenouiller devant le pape. Le pape avait ses propres soldats, et ça ne marchait pas. c'est justement en rapport avec Thiatire, le Moyen-Âge. C'était la mauvaise manière de régner. Et c'est pas possible de régner de cette manière. Vous le retrouvez un petit peu plus loin, ce que je vous dis là. C'est écrit pour le vainqueur, mais c'est écrit aussi, par exemple, toujours dans l'Apocalypse. Et là, vous allez voir, on comprend mieux. C'est Apocalypse 12, verset 5. La femme enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est le premier enlèvement. C'est encore pour en rapport avec les vainqueurs. Les vainqueurs, effectivement, ils vont être appelés à régner, Apocalypse 12, pendant le millénium. Ça, c'est dans le ciel. Comme Christ a reçu cela, mais déjà sur la terre, on est appelé à régner. Comment est-ce qu'on peut régner sur la terre? Il n'y a qu'un seul moyen. C'est en utilisant toutes les armes que Dieu nous a données. Et là, ça nous parle, bien sûr, du combat spirituel. Beaucoup d'églises aujourd'hui ne combattent plus spirituellement. Alors, ne règnent pas. Sont dominés par le monde, sont dominés par les choses de la vie. Parce qu'il n'y a pas cette notion de règne. La notion de règne est fausse. Elle est faussée. Soit ils veulent régner comme le monde. Rappelez-vous, les Juifs, ils attendaient le Messie. On le voit. Mais ils attendaient un Messie qui allait régner, qui allait les libérer du joug romain. Ils n'attendaient pas le... C'est pour ça que Jean-Baptiste a posé cette question. Es-tu celui qui devait venir ? Vous comprenez? Parce que certainement que beaucoup de ses disciples, ceux qui venaient le voir, ils disaient, mais voilà, ce Jésus que tu nous as dit, qui était l'agneau de Dieu, bon, mais il fait il attire des disciples à lui, mais on est toujours sous le joug romain, qu'est-ce que... On voit pas la libération comme ça a été le cas du peuple lorsqu'il est sorti d'Égypte. Et Jean-Baptiste a posé cette question. Moi, je ne dis pas que Jean-Baptiste a posé cette question par rapport à lui-même. Je crois qu'il l'a posé par rapport à ce qu'on lui a rapporté. Vous voyez, souvent on dit « Ah, Jean-Baptiste était découragé ». Je ne suis pas du tout sûr de ça. C'est comme quand on lit dans Zacharie 4 le souverain sacrificateur qui était plein d'abyssal. Vous savez, ce n'était pas ses propres péchés qu'il portait. C'était les péchés du peuple. Donc moi, je crois que les abyssales, c'était en rapport avec le peuple et pas en rapport avec le souverain sacrificateur lui-même. Donc, ce n'est pas la bonne manière de régner. Parfois, Dieu donne une révélation et puis on imagine la révélation, on imagine comment elle doit se passer et puis ça ne se passe pas comme on a prévu. Alors on se pose des questions. Mais non, Dieu a parlé. Faisons attention, qu'est-ce qu'il a dit ? Et qu'est-ce qu'il a dit exactement? Soyons précis. Et là, on voit que effectivement, on s'est trompé dans l'interprétation. Dieu veut qu'on règne. Et à partir du moment où on utilise les 12 armes que Dieu nous a données dans sa parole, eh bien, on peut régner. Mais c'est pas régner comme le monde l'imagine. Comprenez? On va régner dans le sens que on aura fonctionné en vainqueur, on sait ce que c'est que d'être un vainqueur, on ne se laisse pas faire, on a compris ce que c'est que la souffrance, celui qui règne, il souffre, il sait ce que c'est que la souffrance, mais il est au-dessus de ça. Il utilise les armes que Dieu lui a données pour régner. Et il va régner sur les circonstances, sur les animaux, comme c'est écrit ici, n'est-ce pas? Moi, une fois, j'ai été attaqué par un chien, un chien qui venait sur moi, qui était prêt à me mordre. Et c'était en Italie, je me souviens bien de cet épisode. Et il est arrivé, il était dans la rue, il n'avait pas de laisse, personne est venu vers moi. Je me suis retourné au nom de Jésus, je lui ai fait comme ça. Et puis tout d'un coup, il s'est assis, il n'a plus dit, il n'a plus aboyé, plus rien du tout. Et puis j'ai continué mon chemin. Dieu veut nous donner de régner sur le monde animal, sur le temps, sur les différentes situations. Quand j'ai été empoisonné, comme c'est écrit dans Marc 16, hein, eh bien, là aussi, il a fallu utiliser l'arme. J'ai perdu 5 kilos dans la journée, mais je ne suis pas mort. Alors que le plan de l'ennemi, c'était de me tuer à ce moment-là. Donc, c'est important de régner. Vous voyez que déjà, dans la Genèse, l'homme devait régner, devait dominer sur la création. Alors, la création, c'était tout. Donc, c'est pour ça que le règne, c'est en rapport avec tout. Ça peut aller très loin. Quand vous prenez, par exemple, John Knox, il était en Écosse, et c'était un grand réformateur, et la reine d'Angleterre, il s'appelait Marie, on l'a surnommée Marie la Sanglante, elle était terrible. Et Marie la Sanglante, eh bien, elle disait, moi je n'ai peur ni de Dieu ni du diable, il n'y a qu'une chose dont j'ai peur, c'est de John Knox. C'est des prières de John Knox. On avait un autre je ne sais pas si on peut dire réformateur, non, je ne dirais pas réformateur, mais un autre ministère qui se trouvait pas très loin de l'Alsace, dans l'Allemagne actuelle. Il utilisait tellement les armes divines que les démons ne pouvaient pas s'approcher de lui à 100 km à la ronde. 100 km autour de l'endroit où il était, il n'y avait aucun démon. C'était Christophe Blumhardt, pour ceux qui connaissent. Bon, mais ce sont des exemples qui nous donnent, qui nous montrent que c'est possible de vivre des choses comme ça sur cette terre et qu'on est appelé à régner, mais régner par rapport au monde spirituel, par rapport aux circonstances, aux choses de la vie, etc., tout ça. Et l'Église est appelée à régner, c'est une clé. La huitième clé, c'est Genèse 2, versets 1 à 3. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Mais la huitième clé, c'est la clé du repos. On en parlait tout à l'heure. L'Église doit vivre dans le repos. Les chrétiens doivent vivre dans le repos. Il y a un chemin merveilleux à ce niveau. Et trop de chrétiens sont oppressés, vivent dans le stress, se laissent bousculer par l'ennemi d'une manière ou d'une autre. Vivent dans le repos. C'est en rapport avec la gloire de son nom. Parce que la gloire de son nom... Non, c'est pas ça, je me trompe. Avec le Père, pardon. La gloire de son nom, c'est le règne. Hein. Avec le Père. Pourquoi ? Parce que la connaissance du Père est toujours en rapport avec le Dieu de paix. Philippiens 4. La paix de Dieu, puis le Dieu de paix. Et la conséquence de connaître le Père, c'est de vivre dans le repos. La connaissance de connaître le Fils, c'est d'être fidèle à la vision. La connaissance du Saint-Esprit, c'est la grâce. Mais bon, on reviendra là-dessus. Beaucoup d'églises manquent de grâce. Ils sont légalistes. Parce qu'il y a un manque de connaissance de l'Esprit. Mais restons avec ce point, la clé du repos. Là, c'est, si vous voulez, le septième jour, c'est l'achèvement. Vous voyez, Dieu a achevé son œuvre. C'est terminé. Il peut se reposer. Et c'est vrai que quand on vit de cette manière, eh bien, on comprend que, rappelez-vous, le point précédent, le règne, il y a des combats. Mais c'est une erreur de vouloir tout le temps combattre. Combien de ministères sont tombés parce qu'ils faisaient que du combat ? Ils ont oublié le repos.